Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Bouris.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, dans cette édition, nous parlons statistiques économiques. Les statistiques, nous en sommes, vous en êtes abreuvés à longueur de journée, le produit intérieur brut, les chiffres de l'inflation, du chômage, la croissance, nous sont administrés pour nous décrire le monde dans lequel nous vivons. D'habitude, dans cette émission, les statistiques, on essaie de pas les multiplier parce que les chiffres à la radio, c'est compliqué, que trop de chiffres, cela rend souvent le propos difficile à suivre et que de simples mots suffisent souvent à exprimer des réalités complexes. Alors, les statistiques simplifient-elles ou compliquent-elles l'appréhension de la réalité et peuvent-elles l'altérer, cette réalité qu'elles veulent traduire? On attribue au premier ministre britannique Benjamin Disraeli au 19e siècle la phrase suivante. Il y a trois sortes de mensonges, les mensonges ordinaires, les satanés mensonges et les statistiques. On fait dire donc beaucoup de choses aux statistiques, mais ces stats disent-elles la vérité du monde qui nous entoure? Telle est la question que je vais poser aux quatre invités que je vous présente maintenant. Bonjour Michel Aglietta.
Bonjour.
Michel Aglietta, vous êtes conseiller principal au CEPI, un centre d'études et de prospective internationale à Paris. Vous êtes également membre du Haut Conseil des Finances Publiques et vous êtes l'auteur d'une œuvre économique importante. Parmi les derniers livres que vous avez publiés, Le dollar et le système monétaire international avec Virginie Coudert aux éditions de la Découverte. Autre livre chez Odile Jacob avec Thomas Brand, Un New Deal pour l'Europe. C'était en 2013. Michel Aglietta, est-ce qu'on peut faire de l'économie comme vous le faites, sans statistiques?
Non, pas sans statistiques, bien sûr. Mais l'idée, c'est de savoir comment s'en servir, si vous voulez. Pour moi, il me semble que le quantitatif, c'est l'apparence du qualitatif. Il faut pas s'en servir en pensant que la précision comptable a quelque chose qui donne une vérité. Et donc, derrière, il faut aller chercher, les recouper, un ensemble de phénomènes et insérer les statistiques dedans.
À vos côtés, Michel Aglietta, Stéphane Grégoire, bonjour.
Bonjour, monsieur Boris.
Stéphane Grégoire, vous travaillez à l'INSEE, l'Institut National de la Statistique Français. Vous y êtes le directeur de la méthodologie et de la coordination statistique et internationale. Ça pèse lourd, ça. Directeur de la méthodologie, ça veut dire quoi?
Bien, à l'INSEE, il y a un gros travail qui est fait pour être à l'état de l'art en termes de production de la statistique pour décrire un monde qui change tout le temps.
L'état de l'art?
Un état de l'art, oui, c'est-à-dire la connaissance de toutes les méthodes adaptées compte tenu de la diversité des sources, de l'évolution de ces sources. Et ce sont des choses qui demandent de mobilisation, de un peu de formalisation mathématique, beaucoup d'ordinateurs et beaucoup de savoir-faire pratique.
Alors avec nous également François Roubaud. Bonjour François Roubaud.
Bonjour monsieur Jean-Pierre.
François Roubaud, vous êtes directeur de recherche à l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement. Vous êtes aussi ingénieur statisticien. De 2007 à 2011, vous avez été en poste à l'Institut National de la Statistique à Hanoï, au Vietnam. Vous avez publié en 2013 aux éditions de l'IRD un livre intitulé « Les marchés urbains du travail en Afrique subsaharienne ». Est-ce que c'est un travail pour lequel vous avez dû mettre au point des statistiques?
Oui. C'est une caractéristique de ce qu'on fait, de ce que je fais, c'est-à-dire à la fois économiste du développement, mais à chaque fois qu'un phénomène important mérite l'attention à une influence économique et plus largement sur le développement, ben, il faut inventer des méthodes pour essayer de le mesurer. Et donc plus précisément sur les questions d'économie informelle, caractéristique des pays en développement et pas seulement, et plus récemment sur les questions de gouvernance, de mesure de la qualité des institutions et de la corruption.
Alors je termine ce tour de table, ce premier tour de table par vous, Mathieu Plane, bonjour.
Bonjour.
Mathieu Plane, vous êtes directeur adjoint du département Analyse et Prévision de l'OFCE, l'Office français de conjoncture économique, un organisme indépendant de prévision et d'analyse des politiques économiques, des politiques publiques. À ce titre, vous êtes souvent appelé à commenter pour les médias comme RFI les chiffres rituels du chômage ou de la croissance française. Pour moi, simple béotien, la lecture d'un tableau statistique, c'est quelque chose d'aride, très aride, et pour vous?
Bah, on s'habitue, hein, à les lire. Non, mais c'est surtout que, effectivement, la statistique est importante pour comprendre le monde dans lequel on vit. Mais aussi, il faut le traiter avec prudence. C'est-à-dire qu'on voit bien que D'abord, c'est de la macroéconomie, hein, et donc ça parle pas forcément à tout le monde, parce qu'il y a une forme de disparité hein, aussi au sein des chiffres, et donc...
Ça veut dire quoi, disparité?
Ben, c'est-à-dire que effectivement, vous avez de la macroéconomie, donc c'est des agrégats, donc forcément, quand on parlait d'inflation, les gens se reconnaissent pas forcément dedans, donc il y a un certain nombre de choses, et puis aussi, les chiffres peuvent être amenés à réviser, parce qu'il y a aussi l'urgence de produire des statistiques, et plus vous allez produire des statistiques rapidement, plus elles peuvent être fragiles, donc il faut aussi... Notre rôle aussi, c'est de dire, il faut être prudent quand on commande ces statistiques, parce qu'elles peuvent être amenées à réviser. Mais en tout cas, elles sont bien sûr essentielles pour notre travail.
Alors, dans la deuxième partie de cette émission, nous irons en Chine avec un reportage signé à Eike Schmidt et au Rwanda, où nous attend Stéphanie Aglietti. On va commencer par cerner ce dont on parle. J'aimerais que vous me répondiez tous. C'est quoi les statistiques, Stéphane Grégoire? Vous êtes l'homme de l'INSEE, donc c'est votre métier tous les jours. C'est quoi les statistiques?
Alors, les statistiques, tout le monde sait ce que c'est qu'une statistique, parce que tout le monde a entendu la moyenne de la classe quand il était à l'école, ça c'est une statistique. Mais ici, on parlera plutôt des statistiques dites publiques, statistiques officielles. Donc, c'est-à-dire des choses qui sont des constructions, faites par des statisticiens et des économistes et des sociologues pour essayer de décrire des phénomènes économiques. Et pour ça, on va s'appuyer sur des données élémentaires, donc des chiffres qui vont décrire des individus, des ménages, des logements, des entreprises. Et on va les agréger pour construire...
Les additionner
pour construire une mesure représentative d'une situation. Et ce qui est important dans les statistiques, c'est qu'il faut que ça soit relativement stable dans le temps, parce qu'une statistique toute seule, à un moment donné, c'est pas très interprétable. Il en faut la mesurer régulièrement pour pouvoir la comparer, pour pouvoir interpréter ce qui se passe. Et en fait, l'interprétation passera à la fois par la connaissance de comment c'est construit et des phénomènes que c'est censé décrire.
Michel Aglietta, votre réponse, les statistiques, c'est quoi?
Ben, les statistiques, c'est en effet des ensembles organisés de chiffres, souvent organisés dans des comptes. On appelle pour ce qui concerne l'analyse globale de l'économie des comptes nationaux. Et la question de fond, c'est qu'est-ce qu'on en fait, quoi. C'est-à-dire, donc, pour l'essentiel, c'est des... Évidemment, les économistes sont intéressés par le futur. Soit vous décrivez le passé, donc ce sont des statistiques historiques et on cherche à voir les longues tendances sur des périodes très longues. Hein, ou bien, qui est le plus utilisé, c'est l'aide à la politique économique et les prévisions. Et dans ce cadre-là, il y a quelque chose... Alors, l'incertitude sur des chiffres n'apparaît pas dans ce qui est donné par ceux qui les produisent. C'est-à-dire que moi, je préférerais beaucoup que... étant donné que tous les chiffres sont aléatoires en ce qui concerne notamment la prévision, que les prévisionnistes donnent des plages avec l'incertitude. C'est-à-dire, plutôt que de dire « la croissance va être dans l'année prochaine », c'est de dire qu'à 80% de chance ou à 90% de chance, elle va être entre telle et telle valeur. Et ça, on ne le fait pas. Ce qui veut dire qu'il y a un piège des gens qui croient trop facilement aux statistiques.
François Roubault, les statistiques, c'est forcément des pourcentages?
Non, c'est pas des pourcentages, ça peut être des totaux, des moyennes. Par rapport à votre question, je pense que la statistique, c'est ce qui décrit quantitativement l'état d'une société, donc économique, si c'est la statistique économique, mais plus largement. Dans les cas des pays en développement, on ne peut pas comprendre les sociétés uniquement avec les statistiques économiques. J'ai un biais, moi, personnellement, de statistiques publiques, des enquêtes, essentiellement, un peu de statistiques administratives, et aujourd'hui contestée par, d'un côté, des voix d'experts qui donnent des chiffres à partir de leur perception, ou encore le big data.
C'est-à-dire ?
Ben, tout ce qui dérive d'Internet, des nouvelles technologies de l'information, et qui sont partiellement privées, et dont on contrôle beaucoup moins, donc d'énormes flux, mais dont on contrôle beaucoup moins la qualité.
Donc ça vous complique la vie?
Complique la vie, c'est une contestation, c'est en tout cas un questionnement de la statistique publique dans les pays en développement, au moins.
Et en France, Mathieu Plame de l'OFCE, est-ce que vous avez les mêmes problèmes?
Non, parce que justement, enfin, on n'a pas les mêmes problèmes, parce qu'effectivement l'INSEE fait très bien son travail, enfin, on compte en tout cas beaucoup sur l'INSEE là-dessus. Et c'est vrai qu'il faut le reconnaître, hein. Enfin, en tout cas la statistique française est quand même de qualité. Et nous, c'est la matière première de notre travail, hein. C'est-à-dire que sans statistique, on ne pourrait rien faire. Et puis bien sûr, quand on essaye de décrire... le futur, on a besoin de comprendre le passé, donc on a besoin d'avoir des séries historiques qui sont fiables, homogènes, comparables. Et donc nous, ça va être essentiel à la fois pour faire de la prévision, hein, et d'ailleurs cette prévision, elle est nécessaire aussi pour un gouvernement quand il va établir une loi de finances, il a besoin d'un cadrage budgétaire, donc c'est essentiel. Et puis après, sur les évaluations de politique publique, sur certaines mesures fiscales, voir comment effectivement les ménages, les entreprises peuvent se comporter face à certains chocs fiscaux ou d'autres choses. En tout cas, tout ça est fait dans un cadre comptable cohérent qui permet aussi d'avoir une lecture assez précise des choses et en tout cas qui nous permet, nous, d'essayer de comprendre les évolutions de l'économie et justement d'être, enfin on peut penser, une aide à la décision publique.
Stéphane Grégoire, François Roubaud parlait à l'instant du big data qui compliquait beaucoup la vie. Ce sont des flux d'informations qui sont drainés via les nouveaux moyens de communication, Internet, etc. Est-ce que vous, à l'INSEE, vous intégrez, vous pouvez absorber ces flux, vous les prenez en compte ?
Non, nous sommes en train de réfléchir et nous travaillons déjà. Alors, Big Data, c'est un mot un peu valise, hein. Ça couvre une réalité qui est très, très diverse. Et donc, d'une certaine façon, toute donnée qui peut être utilisée pour de la statistique publique, nous avons l'obligation de voir ce qui est possible et donc d'en faire usage. Je crois que ce qui est important dans ce que vient de dire François, c'est le problème de savoir comment ces données sont utilisées et quels sont les processus qui ont amené à produire le chiffre global. La statistique public, ce qui est important, c'est la confiance des utilisateurs, la confiance des citoyens dans le chiffre. Et pour construire cette confiance, il faut un cadre à la fois légal, fort, qui va, d'une certaine façon, garantir l'indépendance de la façon dont le chiffre est construit. Et la contrepartie de cette indépendance, ben, c'est la transparence. Comme je disais tout à l'heure, c'est la connaissance des techniques, la connaissance de toutes les données disponibles, les mobiliser au bon moment, mais être transparent sur ce que vous faites. Et cette transparence, si on regarde le système européen de la statistique publique, il est construit avec un règlement qui définit les conditions de l'indépendance des instituts, qui en contrepartie dit, eh bien, vous êtes indépendant, d'accord, vous choisissez vos méthodes, vous choisissez les moyens de diffusion, vous choisissez les moments de diffusion, puisqu'il ne faut pas que ça soit manipulable par un pouvoir politique quelconque, mais en regard, ben, vous êtes soumis à des audits, vous êtes soumis à des visites de comme quoi vous êtes conforme à un ensemble de principes. Donc il y a en Europe un code de bonne pratique qui dit tout ce qu'il faut faire, à la fois sur l'organisation, la façon de faire, les méthodes et la diffusion.
Et les audits sont menés par ?
Alors, ce sont des audits qui sont menés par des pairs. Donc, ce sont les autres instituts qui délèguent des gens et qui, donc, on a eu un audit l'année passée en décembre où on a vu 4 personnes arriver et pendant toute une semaine, ils visitent tout, ils posent des questions sur toutes les façons dont on fait n'importe quel chiffre public de la statistique.
Et ça s'est bien terminé pour vous ?
Oui, oui, nous avons été très bien notés.
Est-ce qu'il vous arrive dans le sens inverse de faire, vous, Jean de l'INSEE, des audits dans d'autres pays européens qui puissent se terminer moins bien que ça ne s'est terminé pour vous ?
Alors, donc, tous les pays peuvent proposer des membres de ces équipes d'audit et il y a certains pays où on souligne des fragilités, parfois des fragilités qui sont d'ordre institutionnel, une trop grande dépendance dans la nomination, dans la définition du champ du travail, parce que ce qui est aussi important dans ce cadre, c'est que d'un côté, vous avez cette indépendance d'acteurs, vous faites choix des méthodes, vous faites ce qu'on considère comme étant l'état de l'art du moment, mais vous ne faites pas n'importe quoi sur ce que vous voulez mesurer. C'est-à-dire qu'il faut un cadre qui va définir ce que vous allez mesurer. C'est pas vous qui allez le choisir. C'est pas le statisticien public qui décide d'aller mesurer quelque chose quelque part. Donc il faut une légitimité à ce choix.
Alors, Mathieu Plane et Michel Aglietta, tous les deux, tout à l'heure, vous avez évoqué la profondeur historique des statistiques. Depuis quand est-ce qu'il y a des statistiques ? Quand est-ce que c'est apparu ? Et depuis quand est-ce qu'on les utilise aussi intensivement qu'on le voit aujourd'hui, Michel Aglietta, d'abord ?
Il existe des gens qui passent leur vie à reconstruire des statistiques du passé alors qu'elles n'existaient pas. Les comptes nationaux n'existent que depuis que Keynes a décidé... comment va-t-on financer la guerre ? Et on a besoin d'avoir des ressources pour ça, et on a la comptabilité nationale part de 1940. On reconstruit des éléments caractéristiques de ça. Il y a eu à l'OCDE un véritable moine de la statistique qui était Madison, et qui a remonté très très loin jusqu'au XVIe siècle, voire même jusqu'à l'an 1000. Alors avec évidemment des éléments de recoupement sur des éléments très partiels de données, etc., et reconstruit du produit intérieur brut. Mais ça dit des choses sur le long terme tout à fait intéressantes. Ça indique par exemple à quelle période vous avez eu des décollages de développement en quelque sorte, et dans telle et telle zone. Ça indique en particulier pourquoi à quel moment la Chine, après il faut savoir pourquoi il faut aller plus loin, mais à quel moment la Chine, si vous voulez, n'a pas poursuivi son développement alors que c'était la première économie du monde, et ça donne des ordres de grandeur intéressants.
à Mathieu Plane, est-ce qu'on vous pourriez être amené à commenter le taux de chômage de l'an 1340?
Non, on ne fait pas ça. On commente mensuellement les chiffres du chômage, mais pas de l'an 1040. Non, alors ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai qu'il y a des travaux là-dessus, mais par exemple, Piketty aussi a fourni des travaux intéressants sur les inégalités.
Thomas Piketty.
Hein, et d'ailleurs, dans l'économie appliquée, les statistiques sont importantes. Et donc, recréer des séries comme ça, statistiques, pour comprendre le passé, qui nous permet de mieux comprendre les crises, leurs évolutions, quelles sont les origines des crises, c'est très important. Et donc, bien sûr, on est amené à avoir de plus en plus de statistiques. Mais d'ailleurs, l'INSEE aussi fournit des statistiques de plus en plus longues. Hein. Je crois que ça commence pour pas mal en 1949 maintenant, en trimestriel. Donc c'est quand même déjà assez remarquable. Enfin, il faut voir que d'ailleurs, je trouve que c'est même un peu sous-utilisé, hein, ces statistiques. Je ne sais pas si on en a conscience, en fait, de toute cette information dont on a accès et qui peut être extrêmement utile pour justement la recherche, l'évaluation des politiques publiques. En tout cas, nous, clairement, avec le développement des modèles macroéconomiques, etc., en fait, on fait de la modélisation, donc on estime et on a besoin de séries statistiques sur des longues périodes parce que l'intérêt de la prévision, c'est bien comprendre le passé. Donc pour ça, plus vous avez des séries longues, plus vous pouvez quand même raconter quelque chose et plus vous avez des phénomènes de crise, de reprise, et donc vous avez des cycles économiques, et ça, c'est quand même assez important pour faire à la fois de l'évaluation des politiques publiques, mais aussi la prévision. Et puis, je voulais juste ajouter quelque chose, c'est qu'effectivement, je pense que la statistique, ça participe à la transparence d'un pays et à la démocratie. Hein.
Mais alors, par exemple,
de cette fiabilité, et on le voit que dans des cas, si vous n'avez pas cette information ou si elle est contestable, effectivement, vous ne pouvez pas faire confiance. En tout cas, vous avez un véritable risque sur l'engagement du pays, ou même si vous devez prêter ou devez emprunter sur les marchés ont besoin aussi d'avoir une information fiable.
Alors, il y a un pays qui me vient à l'esprit immédiatement. Stéphane Grégoire, je me tourne vers vous, là, c'est la Grèce. Oui. Parce que la Grèce, tous les chiffres étaient faux, ou presque. Comment est-ce que le statisticien que vous êtes, dirigeant de l'INSEE, homme éminent dans ce monde de la statistique, explique ça?
La question est complexe. Hein. C'est une question où il se mêle à la fois justement un problème d'institutionnel, qui est un problème d'indépendance du service statistique grec par rapport au pouvoir politique grec. Et cette indépendance, elle doit être écrite dans la loi, elle doit être écrite dans la pratique, et ces choses-là n'étaient pas réellement mises en œuvre en Grèce. Et la Grèce aujourd'hui, il reste encore des problèmes. Il faut savoir que le responsable de la statistique grecque qui vient juste de partir était quelqu'un qui venait du FMI. Il a accepté de prendre le travail pour essayer de nettoyer les écuries d'Augias, et sa vie a été très très difficile. On lui a reproché d'avoir produit des chiffres, en particulier sur le déficit, qui sont un chiffre préliminaire de déficit, c'est nécessairement révisable, parce que toute l'information n'est pas collectée sur l'année. Et donc, on l'a poursuivi en justice, comme quoi les chiffres qu'il avait annoncés étaient dégradés par rapport à la version finale, et on lui a fait un procès de trahison par rapport à l'État. Donc, il faut cette forte structure démocratique qui fait que le statisticien est en situation de faire son travail dans de bonnes conditions. Il a des comptes à rendre, c'est indéniable, mais il faut qu'il soit protégé par un cadre légal clair.
François Roubaud, c'est quelque chose qui vous fait réfléchir, cette situation grecque, en tant que statisticien ?
Oui. Enfin, je pense que la discussion là, autour de la statistique, c'est des problèmes, et les problèmes d'indépendance, c'est un des problèmes possibles, mais c'est un problème plutôt de riche. Au sens, la statistique, c'est l'État. State, Stadt, c'est ça l'origine de la statistique. Et donc, c'est une question d'institution. Et donc, il y a en fait deux problèmes. Il y a un problème d'indépendance, là, ça vient d'être discuté. Ça existe aussi dans les pays en développement. Mais le principal problème, c'est un problème de qualité des institutions pour nous. Les institutions n'existent pas, elles sont extrêmement fragiles. Et donc, il n'y a pas besoin d'invoquer, sauf cas, et on va parler du Rwanda et d'autres cas.
Dans la deuxième partie.
Eh bien, c'est plutôt le manque de moyens financiers, humains ou techniques. Parce que souvent, les techniques sont dérivées de chez nous. Et la situation est quand même très différente dans les pays en développement. Ça demande des méthodes spécifiques.
Eh bien, ce sera justement l'un des principaux thèmes de la deuxième partie de cette émission, dans quelques minutes, après un flash d'actualité.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI. Écho d'ici, écho d'ailleurs, Jean-Pierre Bouris.
Bienvenue dans cette deuxième partie d'Éco d'ici, Éco d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, nous parlons statistiques avec une question, les statistiques disent-elles la vérité? Pour y répondre, quatre invités, Mathieu Plain, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'Office français de conjoncture économique, François Roubaud, directeur de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, Michel Aglietta, conseiller principal au CEPI, un centre d'études économiques, et Stéphane Grégoire, directeur de la méthodologie et de la coordination statistique internationale à l'INSEE. Alors, au cours de cette première partie d'émission, nous avons plutôt cherché, au cours de la première partie de cette émission, nous avons plutôt cherché à cerner ce qu'étaient les statistiques, la science statistique. Et au cours de notre petite pause, pendant ce flash d'actualité, nous évoquions les origines de statistiques. Et alors, on est remonté assez loin. Stéphane Grégoire, vous datez à quand l'invention de la science statistique, des premières statistiques?
Alors, il y a deux choses. Il y a la mesure. Donc, ouais. On a des premiers enregistrements de mesures. On a des tablettes sumériennes. Donc, la production agricole, la production en termes de têtes de bovins, des choses comme ça, les troupeaux. Après, le mot statistique. Donc, il y a un petit débat, savoir si ça apparaît au XVIe siècle ou au XIXe siècle. Donc, en Italie ou en Allemagne. Donc, c'est stato ou stat qui serait à l'origine du mot. Et la vraie, je dirais, l'idée que la statistique puisse servir à quelque chose, d'une certaine façon, il y a certaines personnes qui relient ça au fait que la première régularité qui a été observée et qui a été discutée dans les académies scientifiques du XVIIe siècle, c'est le nombre d'enfants de sexe mâle par rapport au nombre d'enfants de sexe féminin dans la population humaine. Et donc, on a vu qu'il y avait des régularités. Et donc, il y a des régularités, donc il y a des choses à apprendre. On peut décrire, il y a des phénomènes réguliers qui se retrouvent dans la population.
Alors, Michel Aglietta, vous remontiez à l'Empire romain.
Non, mais je disais qu'en effet, les grands États, les grands empires avaient besoin des éléments qui sont liés au nombre, en quelque sorte, hein, qui sont les ancêtres de la statistique proprement dite, qui va être une organisation des nombres, et ben sont extrêmement anciens dès que les États existent, en vérité.
Organisation des nombres, je retiens cette formule pour définir la statistique. Les statistiques ne sont pas toujours fiables, loin de là. Le cas le plus emblématique en ce moment, c'est celui de la Chine. Écoutez à ce sujet le reportage Éco d'ici, Éco d'ailleurs, de notre correspondante à Pékin, Heike Schmidt.
À la fin de chaque trimestre, le miracle se reproduit. En l'espace de deux petites semaines, Pékin annonce son produit intérieur brut. Cette rapidité du Bureau national des statistiques laisse les experts perplexes et sème le doute sur la fiabilité des données. Paul Gillis, professeur d'économie à l'Université de Pékin.
Pour avoir les chiffres si rapidement, il faut faire beaucoup d'estimations. Or, qui dit estimation dit évaluation. Et cette évaluation est faite par des fonctionnaires locaux qui ont tendance à faire plaisir à leur hiérarchie. Car s'ils respectent leurs objectifs, ils vont être promus au sein du parti et décrocher des meilleurs postes.
L'économiste américain ne croit guère aux 7% de croissance annoncée par le gouvernement. Il le situe plutôt à 5%. Lors d'une récente visite à Pékin, le ministre français des Finances, Michel Sapin, se montrait philosophe.
Personne aujourd'hui ne considère avec une certitude absolue qu'il s'agit d'un chiffre correspondant à la réalité. Mais au fond, est-ce si important que cela? Est-ce que savoir si c'était 10% avant ou 8%, savoir si c'est 7% aujourd'hui ou 5%, est-ce si important que cela? Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une marche descendante en termes de croissance.
Pour se faire une image plus précise de la situation, tous les analystes ont dû trouver des parades, à l'instar de Julian Evans-Pritchard, qui travaille pour le cabinet Capital Economics à Singapour.
Nous prenons en compte la consommation de l'énergie, le volume du fret, l'activité dans le secteur de la construction, ce genre d'indicateurs qui sont moins sujets à un embellissement et donc plus fiables. Grâce à cet ajustement, nous situons la croissance à 5%.
Aux yeux de l'agence chinoise de planification, la consommation d'énergie et le fret ne reflètent pourtant plus une économie chinoise qui dépend aujourd'hui à 50% des services. Des services par nature moins énergivores que l'industrie. De toute façon, l'exactitude des statistiques n'est pas le premier souci du Parti communiste.
Le parti marche sur le fil du rasoir. Les données doivent être assez crédibles, sinon les gens vont dire que leurs dirigeants mentent. D'un autre côté, le gouvernement ne veut pas provoquer la panique parmi les gens en faisant croire que l'économie s'écroule. Cela menacerait la stabilité sociale.
Li Keqiang, aujourd'hui Premier ministre, l'a dit un jour, les statistiques sont fabriquées par des hommes et donc par définition peu fiables. Cela semble encore plus vrai en Chine.
Un reportage signé Heike Schmidt à Pékin. Michel Sapin disait à l'instant dans ce reportage que l'inexactitude des statistiques chinoises n'avait pas beaucoup d'importance. Ça doit faire hurler le statisticien que vous êtes, Stéphane Grégoire.
Bien, ça ne me fait pas hurler, mais je pense que c'est important quand même d'avoir des statistiques fiables et sur lesquelles on peut s'appuyer pour construire une politique. Et ceci nécessite un bon système de collecte d'informations, des bonnes compétences. Et c'est vrai qu'il faut avoir en tête que la Chine, c'est 22 fois la taille de la France, donc avec des activités diverses et variées dans beaucoup d'endroits. Donc ne serait-ce que collecter cette information, ça demande un système d'information, de remontée d'information qui est très complexe à construire et à maîtriser.
Ça, c'est la version sympa, gentille des choses, parce qu'il y a aussi le côté pression politique. Vous, à l'INSEE, vous ne subissez jamais de pression de quelque ordre que ce soit, visant par exemple à vous faire baisser les niveaux de chômage ou que vous estimez
Non, la statistique française, l'INSEE en particulier, a, je pense, une position reconnue et acceptée par le gouvernement. Nous avons donc aujourd'hui un règlement européen qui s'appelle le règlement 223, hein, qui définit le cadre de notre indépendance, qui nous garantit un certain nombre de choses et qui fait que récemment nous avons changé des règles de diffusion unilatéralement parce qu'il y avait eu des fuites dans certains cabinets, et les cabinets ont accepté cette décision unilatéralement.
Alors revenons à la Chine, Michel Aglietta, cette situation des statistiques chinoises, c'est un problème pour l'économie chinoise ?
Non, mais c'est un problème pour le gouvernement. Le gouvernement a besoin énormément de très bonnes statistiques, bien sûr. Où est la contradiction ? C'est que pendant toute une période, la Chine a voulu mener une politique d'industrialisation très rapide, de la période 95 jusqu'à 2010. En conséquence, les incitations qu'elle donnait aux dirigeants locaux étaient des incitations à maximiser la croissance. Ce qui entraîne forcément, dans la concurrence des différentes collectivités locales, des surenchères. Mais évidemment, les organismes centraux le savent aussi bien que nous, et mieux que nous qu'il y a ça. Moi, quand j'ai interrogé les gens de la Commission nationale de développement et de réforme, ils me disaient, on corrige ce genre de choses. Alors, il reste forcément beaucoup de bruit dans tout ça, hein. Mais aussi, il y a les recoupements intérieurs. Si la croissance, il y a même des gens qui ont dit qu'elle était descendue jusqu'à 3 ou 4%.
Oui,
s'il en était ainsi, on aurait un chômage massif. Or, le chômage, ça se mesure directement et ça se voit dans la rue. Il n'y a aucun chômage en Chine. Ce qui veut dire qu'on crée suffisamment d'emplois, et pour moi, la bonne variable, c'est l'emploi urbain. On crée suffisamment d'emplois pour pouvoir savoir que derrière, il y a forcément une croissance suffisante. Tant que cette situation de l'emploi, qui est la bonne variable, reste correcte.
François Roubaud, vous avez travaillé au Vietnam. Est-ce que vous rencontriez ce même genre de problème dans ce pays aussi, qui est un pays communiste ?
Donc, travailler au Vietnam, mais en fait, la statistique chinoise était venue nous voir pour essayer de mettre en place des enquêtes spécifiques qu'on a développées à Dial sur le secteur informel.
Donc, Dial, c'est le centre de recherche où je travaille. Pour l'IRD.
Voilà. Et donc, ils sont venus, ils ont pris des méthodes, ils ont fait des enquêtes pilotes. On n'a jamais vu les données et on ne sait pas ce que c'est devenu. Donc, le Vietnam est un système qui ressemble à celui de la Chine. Et donc, effectivement, on était toujours surpris de voir que très rapidement, on avait un chiffre de croissance en quelques semaines ou quelques mois, à deux chiffres après la virgule, et qui ressemblait étrangement à celui qui avait été prévu dans le plan quinquennal. Trois ou quatre ans avant. Ceci dit, j'aurais quand même matiné ce problème-là. Il y a un peu l'aspect idéologique. Là, on dit, oh, la Chine fait toujours peur. Ils ont tort, ce régime communiste. Premièrement, les spécialistes là qui ont parlé en disant c'est plutôt 5, etc. À mon avis, pas plus fiable du tout que la statistique chinoise. Ils sont aux doigts mouillés. Ils n'ont pas forcément plus d'informations. Et donc, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on n'est pas en URSS. C'est-à-dire, en URSS, on pouvait très bien avoir une production qui baissait.
C'est l'Union soviétique, oui.
Pour les jeunes auditeurs. Donc là, on pouvait avoir dans les chiffres une croissance, alors qu'en réalité, on était en phase de récession. Chez les Chinois, c'est en aucun cas, ni au Vietnam, cette chose-là. Et ensuite, alors, si on peut douter des chiffres qui sont pas forcément plus mal mesurés qu'ailleurs, c'est pas forcément en plus. On a toujours l'idée, ils veulent maximiser leur prestige, etc. Là, je prends le cas du Vietnam. Donc, au Vietnam, les Vietnamiens, la statistique vietnamienne était particulièrement intéressée pour mesurer l'économie informelle. Mais en réalité, donc on a pu faire l'enquête finalement, il n'y a pas eu une manipulation de chiffres, mais au moment de les utiliser plus formellement, premier argument pour ne pas le faire, si on met l'économie informelle, eh bien le PIB va augmenter, et donc on va changer de statut, on deviendra un pays à revenus intermédiaires, chose qu'on veut pas, puisque l'aide va disparaître. La deuxième chose, c'est que ça veut dire que jusqu'à maintenant, nos méthodes étaient pas bonnes. Donc on critique l'appareil d'État qui était censé être efficace pour le bien de tous. Et enfin, c'est reconnaître aussi l'existence d'une économie informelle dans un pays où l'État est censé être puissant. Et donc c'était aussi un problème. In fine, il aurait fallu réévaluer, rien que pour cette économie informelle, le PIB d'environ 20%.
Et le PIB, c'est le produit intérieur brut, qui est aussi une statistique.
Qui est une statistique, la statistique agrégée au niveau d'un pays. Et finalement, ils ont refusé, pour jusqu'à maintenant, en dépit d'enquêtes existantes, ces chiffres n'ont pas été intégrés dans le PIB officiel. Donc attention au raccourci, la Chine n'est pas forcément seulement le méchant qui triche, alors que nous savons et nous faisons beaucoup mieux.
Mathieu Plane, vous partagez ce point de vue ?
Oui, je partage en partie ce point de vue. Juste, c'est vrai que ce qu'il faut voir, ce qui est inquiétant, c'est vrai que, comme Michel Sapin dit, de toute façon, il y a une trajectoire à la baisse de la croissance chinoise. Mais le problème, c'est l'ampleur de ce ralentissement qu'on maîtrise pas bien. Et on voit bien que ça peut avoir des conséquences, en tout cas, sur les évolutions, vu le poids économique de la Chine sur le commerce mondial, sur un certain nombre de choses. Donc, et je voulais revenir aussi sur une autre chose, c'est que quand on voit aussi la surréaction des marchés financiers, face aux statistiques, c'est quand même extrêmement inquiétant. C'est-à-dire qu'on voit qu'on a eu un début de crise financière il y a quelques mois, suite à des publications, justement, de chiffres chinois sur l'incertitude qui entourait ces chiffres. Et donc, on voit bien que ça a aussi un effet direct sur les marchés, sur les conséquences politiques que ça peut entraîner, etc. Donc, dans un monde globalisé, développé, où effectivement les marchés financiers sont extrêmement réactifs, malheureusement, on est face aussi à ce problème-là, c'est que les statistiques sont quand même extrêmement utilisées, et surtout, on a une surréaction, souvent face à ces annonces statistiques.
C'est Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI, quatre invités, Michel Aglietta, conseiller principal au CEPI, Stéphane Grégoire de l'INSEE, Mathieu Plane de l'OFCE et François Robot de l'IRD, Institut de Recherche pour le Développement, l'OFCE de Mathieu Plane. Alors Stéphane Grégoire, je voulais vous interroger là brièvement sur ce que disait Mathieu Plane. Est-ce qu'on n'accorde pas trop de place aujourd'hui dans les commentaires, dans le suivi aux statistiques ? Est-ce que vous, statisticien, vous occupez pas une place trop importante ?
Non, on n'occupe pas une place assez importante. Je pense que c'est surtout l'usage et la connaissance des chiffres, c'est-à-dire savoir comment ils sont construits pour pouvoir les articuler. Un chiffre tout seul, c'est rarement exploitable. Quand on regarde un PIB tout seul... Donc ça produit intérieur brut et cette mesure de la croissance, sans savoir où sont les sources de la croissance, c'est pas très intéressant parce que c'est l'avenir qui est la façon dont ça va évoluer dans l'avenir, c'est bien les sources, c'est savoir quels sont les moteurs principaux. Donc un chiffre tout seul, en général, ce n'est pas un bon. On peut pas asseoir une décision sur un seul chiffre.
Alors l'Afrique, c'est une des régions où le débat statistique fait rage en ce moment. Un économiste norvégien, Morten Jerven, a publié il y a 2 ans un livre intitulé en anglais « Poor Numbers », qu'on pourrait traduire par littéralement « pauvres chiffres », où il conteste la réalité, la force en tout cas, de l'émergence africaine, au motif que les statistiques des pays africains seraient erronées. Vous en pensez quoi, François Roubaud ?
Comme je l'ai dit tout à l'heure, en Afrique, il y a une capacité institutionnelle en général et de la statistique publique en particulier, puisque les pouvoirs politiques sont pas très intéressés à savoir quelles sont les vraies statistiques pour se faire réélire ou se maintenir au pouvoir. Donc cette faible capacité fait que la statistique globalement est pauvre. Même si dans certains domaines, et ça c'est le paradoxe, elle est plus riche que dans les pays développés.
C'est-à-dire ?
Typiquement aujourd'hui, là, sur un des thèmes qui m'intéresse, c'est-à-dire les statistiques de gouvernance, l'exemple emblématique, c'est la corruption ou la façon dont les institutions fonctionnent, la confiance dans ces institutions. L'Afrique est plus avancée dans la statistique publique sur ces questions qui sont liées aux nouveaux indicateurs sur le développement durable qui viennent d'être votés à l'Assemblée nationale, adoptés à l'Assemblée des Nations Unies en septembre. que, bon, j'ose pas dire l'INSEE parce que Stéphane va se fâcher.
Mais dites-le quand même.
Je le dis. Alors Stéphane, j'espère, et je crois que c'est en discussion actuellement, d'ailleurs en l'occurrence l'INSEE est plutôt un avocat, mais l'expérience est encore limitée, pour étendre le champ de la statistique à des dimensions comme celle de la gouvernance.
La réponse de Stéphane Grégoire, brièvement.
Brièvement, oui. Donc, c'est un des objectifs du développement durable et nous avons soutenu cette proposition et nous allons développer dans certaines de nos enquêtes un module pour suivre la corruption en France.
Qui n'est pas insignifiante. Alors, le dernier mandat des pays africains dans lequel les statistiques ont été contestées, c'est le Rwanda. À Kigali, l'Institut national des statistiques a récemment publié une étude faisant état d'un net recul de la pauvreté. En 4 ans, la part de la population vivant sous le seuil de pauvreté serait passée de 44,9% à 39,1%, une baisse de 6 points. Or, un chercheur belge, Philippe Reintjens, estime que ces chiffres seraient le résultat d'une manipulation. Pour en parler, j'ai joint notre correspondante à Kigali, Stéphanie Aglietti. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Jean-Pierre.
Stéphanie Aglietti, que sait-on de cette polémique rwandaise que j'évoquais à l'instant ?
Eh bien, dans son rapport de 2014 portant sur les conditions de vie de la population, l'Institut rwandais de statistiques a modifié la composition du panier de base des ménages rwandais. Le chercheur Philippe Reintjens reproche aux autorités d'avoir arbitrairement réduit les quantités de certains biens de première nécessité, comme la banane, la pomme de terre irlandaise et la patate douce, et d'avoir augmenté les quantités d'autres produits, comme le manioc fermenté, le sorgho et le maïs. Un panier qui, selon le chercheur, ne reflèterait pas les habitudes de consommation des ménages rwandais les plus pauvres et qui aurait artificiellement fait baisser le seuil de pauvreté. De plus, selon le chercheur, ce changement de méthodologie rendrait de fait incomparables les données du précédent rapport de 2010 avec celui de 2014. Philippe Reintjens assure qu'en refaisant le calcul, la pauvreté au Rwanda n'a pas baissé de 6 points en 2014, mais aurait au contraire augmenté de 6%.
Alors c'est une différence évidemment très importante. Stéphanie, quelle a été la réponse des autorités rwandaises ?
L'Institut national de statistiques a immédiatement réagi et qualifié ces accusations de fondamentalement fausses. Alors l'Institut reconnaît avoir modifié la composition du panier des ménages rwandais, mais insiste sur une nécessaire mise à jour de ce panier. Mise à jour qui, selon les autorités, a suivi une méthodologie rigoureuse.
Alors, l'Institut des statistiques rwandaises s'assure la coopération, la collaboration d'OPM, un institut privé britannique qui fournit donc un appui technique au Rwanda. Et cet institut britannique, Stéphanie, si je suis bien renseignée, a refusé de s'exprimer.
Oui, OPM avance le respect de la clause de confidentialité qui le lie au Rwanda. Il est donc de fait difficile de savoir ce qui s'est passé en coulisses, pourquoi et comment ce panier de base a été modifié. Reste que pour la première fois depuis plusieurs années, OPM n'a pas co-signé le rapport de l'Institut de statistique rwandais.
Il faut ajouter peut-être, Stéphanie Aglietti, que cette polémique intervient dans un contexte politique très particulier au Rwanda.
Oui, tout à fait. Une réforme de la Constitution est en cours au Rwanda pour permettre à Paul Kagame de briguer un troisième mandat en 2017 et théoriquement lui permettre de diriger le pays jusqu'en 2034. Et l'un des principaux arguments des partisans de cette réforme, ce sont les résultats économiques de Paul Kagame depuis son arrivée au pouvoir. Les critiques accusent donc le gouvernement d'avoir volontairement manipulé ces statistiques afin de justifier un maintien au pouvoir du président rwandais. Reste qu'au-delà de ce débat, il faut tout de même noter que cela fait plusieurs années que le FMI ou la Banque mondiale saluent les résultats du Rwanda en matière de réduction de la pauvreté.
Est-ce que la modification des données prises en compte dans l'élaboration des statistiques, c'est de la tromperie ? Ça peut être pris pour de la tromperie, en l'occurrence François Roubaud ?
J'ai dit que en grande masse, c'est plutôt un manque de capacité que de la tromperie. Mais la tromperie n'est pas exclue. On a parlé de la Grèce. On connaît aussi le cas de l'Argentine et de l'indice des prix à la consommation. Dans le cas du Rwanda...
Qu'est-ce qui s'est passé en Argentine ?
Y a eu là, une manipulation des chiffres pour essayer de minimiser les chiffres d'inflation pour des raisons évidemment politiques, puisqu'on juge les résultats de la présidente, en l'occurrence, sur ses performances économiques. Mais dans le cas du Rwanda, je dis possible, mais sceptique. D'abord, première chose, la pauvreté qui serait passée de 44% à 39%, En l'espace de quelques années, c'est pas du tout quelque chose d'extraordinaire. Des choses extraordinaires, j'ai travaillé sur le pays voisin, le Burundi, et qui sont absolument pas crédibles. Une baisse de 20 points de l'indice de Gini, c'est-à-dire qui mesure les inégalités en l'espace de 4-5 ans. Là, c'est proprement impossible, ça demande 20 ans, surtout qu'il n'y a pas eu de politique spécifique. Donc d'une part, le chiffre du Rwanda n'est pas énorme, la baisse de la pauvreté. D'autre part, on sait qu'il y a eu une croissance importante au Rwanda. Alors il y a évidemment les questions politiques qui sont là. On sait que Paul Kagame veut se maintenir au pouvoir. Ça me paraît pas complètement clair, puisque de l'autre côté aussi, les critiques de Kagame vont chercher à montrer qu'il y a de gros problèmes. Donc je suis pas complètement choqué par ce qui se passe, même si la possibilité d'une manipulation est, n'est pas à exclure. Là, je reviens d'Addis Abeba sur des questions de gouvernance où la représentante du Rwanda présentait le cas rwandais comme totalement exemplaire en matière de gouvernance, ce qui me laissait sceptique. Je lui posais la question et elle me disait « Oui, mais le Rwanda, voilà ». Démarre une nouvelle histoire, on sort d'un génocide, donc on est aussi dans des conditions totalement exceptionnelles auxquelles il faut réfléchir.
Alors beaucoup de pays africains, ces dernières années, je pense au Ghana, je pense au Nigeria, ont toiletté la nomenclature de leur produit intérieur brut, ont ajouté ou retiré des activités pour s'adapter à la nouvelle situation économique, au monde moderne. Est-ce que ça, c'est quelque chose de positif? Est-ce que, François Roubaud, est-ce que c'est fait dans l'intérêt du pays?
Je crois que c'est positif dans le sens où on essaye de se rapprocher de la réalité. Donc du jour au lendemain, pour prendre l'exemple que vous citez et qui a été critiqué donc par le chercheur, l'historien en réalité Morton Gerven, qui a fait beaucoup de bruit, le PIB du Ghana du jour au lendemain pour la même année a été augmenté de 60% et on a eu un phénomène de ce genre, d'ailleurs essentiellement dans les pays d'Afrique anglophone. Je pense que c'est plutôt une bonne chose, c'est-à-dire on se rapproche de la réalité, mais on voit aussi que derrière, il y a des questions politiques qui se posent, il y a toujours les questions politiques, et ça a engendré un débat blanc-noir, au sens où les institutions statistiques continentales ont dit « oui, bah alors c'est encore une façon de nous disqualifier, c'est un petit historien qui vient critiquer tous nos efforts, toutes nos statistiques, pour montrer à quel point on est mauvais et à quel point les solutions, c'est eux, les Blancs, qui les ont ».
L'INSEE travaille avec les pays africains, Stéphane Grégoire ?
Oui, nous avons plusieurs opérations de coopération, en particulier dans la construction des comptes annuels, dans la comptabilité nationale des États.
Dans quel pays ?
Essentiellement les pays d'Afrique francophone.
Mathieu Plane, vous en pensez quoi de ces statistiques africaines ?
Alors, je ne connais pas bien le sujet sur les statistiques africaines. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a quand même des enjeux politiques derrière les statistiques. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Et on le voit aussi, pas qu'en Afrique, on voit aussi, par exemple, en France, le président de la République a fait notamment un désengagement important qui est l'inversion de la courbe du chômage. Qu'est-ce que ça veut dire, l'inversion de la courbe du chômage? De quel chômage on parle? C'est-à-dire que vous voyez en France, on a le chômage au sens du BIT, on a le chômage de Pôle emploi, des catégories A, B, C, D, E. Enfin, on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses autour de ça qui sont assez complexes. Et je me souviens d'ailleurs d'un débat pendant la présidentielle entre Nicolas Sarkozy et Laurent Fabius, où ils n'étaient pas d'accord sur le chiffre du chômage. Il y en a un qui disait le chômage a augmenté d'un million, l'autre disait non, c'est que 400 000. En fait, ça dépend de la référence que vous prenez. Donc on voit bien que, effectivement, l'auditeur ou l'opinion publique a du mal à croire parfois aux statistiques. En fait, les deux avaient raison, mais on ne parlait pas de la même chose. Donc ce qui est très important dans la statistique, c'est de bien définir de quoi on parle.
Michel Aglietta, est-ce qu'on y arrive à définir de quoi on parle en statistique ?
C'est assez difficile dans une période comme la nôtre, hein. Vous êtes en période de changement structurel et vous ne retrouvez pas les conditions de croissance qu'on connaissait avant. Alors moi, j'ai vu ça tout à fait précisément sur un plan politique économique dans le cadre du Haut Conseil. C'est-à-dire que dans le cadre
du Haut Conseil
des finances publiques, où nous devons donner des avis sur la politique budgétaire du gouvernement. Je sais pas si on sait que l'Europe fait une pression, la zone euro dans son ensemble, hein, pour réduire les déficits budgétaires aujourd'hui.
Oui, je crois que ça c'est élément
très important
de la connaissance de tous.
Et alors, mais la méthode utilisée, c'est de dire il faut se mettre dans le cadre de programmes de stabilité à moyen terme et le faire suivant une certaine trajectoire. Donc, ce qui est très important, c'est ce qu'on appelle le déficit structurel, c'est-à-dire le déficit que l'on peut obtenir si l'on est capable de du
utiliser toutes ses ressources, toutes les ressources de l'État, pour produire un niveau de produit intérieur brut qu'on appelle le produit intérieur brut potentiel. Et c'est là-dessus qu'on calcule le déficit qu'il faut atteindre. Le problème, c'est qu'on ne sait plus aujourd'hui ce qu'est ce produit intérieur brut potentiel et que, en particulier en Europe, il a été nettement surestimé systématiquement pendant un nombre important d'années. Et la conséquence, c'est qu'on en a déduit que l'on pouvait faire des efforts budgétaires qu'en fait était incapable de réaliser. Et c'est ce qui a entraîné que l'ensemble des gouvernements se sont mis dans des politiques d'austérité systématiques et qui ont fait qu'on a eu, après la crise grecque, une récession générale dans toute l'Europe. Donc le problème de fond d'une mesure qui est très incertaine, mais qu'on considère comme une vérité, parce que la Commission européenne l'annonce et que tout le monde s'aligne dessus, eh bien, ça peut entraîner, en effet, des défaillances de politique économique considérables.
Donc la faute aux statistiques et aux statisticiens, Stéphane Grégoire, le dernier mot de cette émission. Vous partagez cette analyse ?
Juste faire une petite nuance, c'est que dans la mesure qui est évoquée ici, c'est quelque chose qui s'est construit à partir des statistiques. C'est une interprétation et une manipulation des statistiques pour construire une représentation de ce qui est en train de se passer, en particulier le PIB potentiel, c'est une notion qui est très difficile à définir. Donc ce n'est pas vraiment des statistiques en tant que telles, c'est une élaboration sur des statistiques.
Une élaboration sur les statistiques, eh bien, ce sera le dernier mot de cette émission. Merci à vous quatre d'y avoir participé, François Roubaud, Mathieu Plane, Michel Aglietta, Stéphane Grégoire. Cette émission était réalisée par Nicolas Benita, qui la met aussi en ondes. Vous pouvez nous réécouter sur notre site internet rfi.fr et je vous dis à la semaine prochaine.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.